Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui s'accomplit dans plusieurs sphères de sa vie, Danielle Lessard.
On poursuit notre mois de mars. On est avec une autre dame aujourd'hui, une dame que je connais peu, que j'ai souvent entendu son nom dans le milieu, mais c'est aujourd'hui que je dirais que je vais la découvrir en même temps que vous, ceux qui ne la connaissaient pas encore. Et c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent déjà. Elle s'appelle Danielle Lessard. Tout d'abord, bonjour Danielle.
Bonjour.
Merci de participer à, d'accepter de participer au projet Connaissez-vous. C'est un honneur pour moi. Et comme je te le disais avant de commencer, bien, à Connaissez-vous, on a l'habitude de faire un parcours de la personne en commençant par sa naissance ou à peu près. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire environ à quelle époque tu es né puis à quel endroit?
Dans le fond, moi, je suis née à Québec, dans la ville de Québec même. Ça va me vieillir, mais à la fin, vraiment à la fin des années, en 1959, à la fin de l'année, on pourrait dire quasiment que je suis un bébé de début de 1960, mais je suis 1959. Faut rester réaliste. Et puis, c'est ça, je suis née au monde à Québec. Alliez-vous dire quelque chose? Je ne veux pas vous interrompre.
Non, mais tu peux me dire-tu, toi okay. Aussi, hein?
Oui. D'accord. Alors, c'est ça. Moi, je suis venue au monde dans une famille. Je suis la troisième enfant de trois. J'ai deux frères plus vieux. J'avais deux frères plus vieux. Mes frères n'avaient aucun handicap. Je suis la seule dans la famille qui a un handicap visuel.
OK. Et le handicap visuel, c'est quoi exactement?
C'est ce qu'on appelle du colobome. C'est une malformation au niveau de l'œil. Moi, de la manière qu'ils me l'ont expliqué, c'est pendant la formation du fœtus, la formation a arrêté pendant la formation de l'œil. Je m'explique. Dans le fond, c'est que j'ai tout l'œil au complet. Il y a une partie qui n'a pas été formée, qui n'est pas là, que ce soit au niveau de la rétine, du nerf optique. Il y a vraiment une partie qui est inexistante. Alors, j'ai ce problème-là. Et j'ai aussi du strabisme et du nystagmus. Mais c'est vraiment le colobome qui fait que ma vision, normalement, avec cette pathologie-là, on devrait voir tout ce qui est en l'air, puis tout ce qui est au sol, on ne le voit pas. Moi, c'est le contraire, fait que ça m'avantage étant donné que souvent les obstacles sont au sol, sont pas dans les airs.
C'est plus intéressant de voir où on marche que qu'est-ce qui est en haut de nous, là. On peut dire ça comme ça.
Oui. Ben, c'est ça, parce que les obstacles sont souvent au sol, que ce soit là, les trottoirs, les escaliers, souvent c'est au sol. Alors moi, ça m'avantage que ce soit le contraire de ce qu'on voit souvent chez les personnes qui ont du colobome.
OK.
Enfin, pas du colobome, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
C'est ça. Et tu me disais, famille de trois, la plus jeune, tout ça. Est-ce que tu as des souvenirs des moments où ce que tu t'es aperçu que c'était différent pour toi, la vision? Eh bien, est-ce que ça a eu beaucoup d'impact, dans ton enfance?
C'est sûr que moi, je pourrais pas dire vers quel âge que je m'en suis rendu compte, parce que la seule chose que je me rappelle, c'est que quand j'ai commencé l'école, j'ai commencé dans une école spécialisée pour personnes handicapées visuelles à Québec. C'est l'école Saint-Vincent. Elle a été inaugurée en 1966. Ça a commencé, puis j'étais dans les les élèves débutants, on était 9 élèves. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une différence, parce que je comprenais pas pourquoi que j'allais pas à l'école de quartier à la même place que mes frères. Fait que je crois bien, là, c'est... De ma souvenance, je dirais que c'est là que je m'en suis rendu compte.
OK, mais t'as commencé directement là, ça que t'as pas vécu l'école régulière avant, là.
Non, non. J'ai vraiment commencé avec la maternelle dans un milieu spécialisé.
OK. Et est-ce que tu te souviens que ça a été un choc? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'on comprend vite qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Je sais pas comment le dire, là, mais est-ce que ça a été difficile pour toi, l'apprentissage dans cette école-là?
Je pourrais pas dire. Je crois que j'étais quand même à l'aise. Je sais que ma mère m'avait dit que vers l'âge de peut-être 17 ans, là, je pourrais pas dire, j'ai fait une grosse réaction à l'handicap visuel, ben, dans le sens que un peu comme une petite dépression là, à savoir pourquoi que je n'étais pas comme les autres, mais c'est très vague pour moi là. C'est une période que je me rappelle pas. Je me rappelle pas de cette de ça, mais je me rappelle que j'ai posé la question pourquoi je n'étais pas comme les autres, mais pas plus là. Je pourrais pas aller là-dessus vraiment. Là.
C'est ça, ça t'a pas marqué là, au point de t'en souvenir, là.
Non, non, c'est ça. J'étais probablement trop jeune. Fait que, mais le milieu où j'étais, l'école où j'étais, j'avais des amis. Fait que ça allait très bien aussi. Fait que c'est peut-être pour ça.
C'est que socialement, ça n'a pas été trop compliqué de te faire des amis. Puis là, c'était toutes des personnes non-voyantes, ben avec un problème de vision?
Oui, c'est ça. C'était vraiment une école qui, un peu comme on retrouve à Montréal, qu'on retrouvait dans le camp Montréal avec Louis Braille, Nazareth. Mais c'était vraiment là, c'était pour les gens de l'Est de la province. Puis on a commencé, on était 9, ça a grossi tranquillement. Mais moi, j'ai arrivé dans les, tu sais, vraiment la première, là, dans les 9 premiers. Alors, c'était facile pour moi. Là. C'est des gens nouveaux qui arrivaient à chaque année qui se greffaient à nous. Ça a bien été. Je dirais qu'au niveau social, aller jusqu'à l'âge de 9 ans, on restait dans un quartier qui, on était près d'un parc. J'avais quand même quelques amis. C'était plus difficile de se faire des amis avec avec mon handicap, étant donné que ça paraissait dans mes yeux. Fait que, à l'époque, c'était pas aussi compris qu'aujourd'hui. Mais c'était vraiment l'été qui était peut-être un petit peu plus dur, mais j'avais quand même une amie ou deux, fait que ça allait quand même bien. Jusqu'à l'âge de 9 ans, parce qu'après, on a déménagé, on s'est en allé un petit peu en banlieue. Puis là, ça a été plus difficile là, d'avoir des amis, parce qu'on était vraiment éloigné de tout, là. Fait que là, ça a été un petit peu plus difficile, là. Le quartier était pas, me favorisait pas le contact, là. Il y avait pas assez de gens prêts. Fait que c'est là que j'ai trouvé ça plus difficile, là, que j'avais plutôt hâte à l'école pour justement revoir les gens, là, avec qui j'étais.
Mais le déménagement, est-ce que tu pouvais encore aller à l'école spécialisée quand même, ou si c'était un changement d'école aussi?
Non, non, on a, dans le temps, on avait des, c'est vraiment des, soit des, au début, c'était des taxis, ensuite, ça a été des minibus, mais ça a toujours été du porte-à-porte, là. Ils venaient nous chercher à la maison directement, fait que ça changeait pas grand-chose, là, que je sois un petit peu plus loin, là, ce qu'on appelait la banlieue, maintenant, c'est la ville quand même, mais dans le temps, là, on se trouvait un petit peu en banlieue, fait qu'il y avait aucun changement à ce niveau-là. J'ai tout fait mon primaire à Saint-Vincent, cette école-là, jusqu'en secondaire 2. Et puis en secondaire 3, ben là, on tombe dans les années où ce que le gouvernement voulait que les personnes handicapées soient intégrées dans les écoles dites normales. Alors, c'est là que je me suis ramassée à la polyvalente de Charlebourg avec d'autres personnes, là, qui avec des personnes voyantes.
Et par la même occasion, ben, tu n'as pas connu non plus d'être dans un pensionnat, là. Tu rentrais chez toi tous les soirs dans ta famille.
Oui, ben l'avantage que j'avais, c'est que j'étais de Québec. Les gens qui venaient de l'est de la province, là, qui venaient de je sais pas, Rivière-du-Loup, dans des endroits qui c'était impossible, eux autres restaient dans des familles d'accueil. Puis, ils retournaient chez eux, soit la fin de semaine, si c'était pas trop loin. Assez souvent, c'était ça, ou peut-être aux 2-3 semaines. Mais moi, en étant à Québec, j'allais à l'école, je revenais, j'étais avec ma famille là, en fin d'après-midi. Sauf que le dîner se faisait à l'école même.
OK. J'aimerais ça qu'on fasse un petit parallèle entre le temps que tu étais à l'école spécialisée puis le temps où ce que tu es allé à l'école de quartier, donc c'est en secondaire 3. Comme quand tu étais à l'école spécialisée, est-ce que tu as appris le braille ou si tu fonctionnais avec ta vision?
Au début, quand j'ai commencé, tout le monde apprenait le braille. J'ai appris le braille. J'ai fait ma première année, puis ensuite, ils ont vu que j'ai quand même un visuel, j'ai environ là, un 3 %, ils ont décidé que j'apprendrais l'écriture noir et blanc, l'écriture normale. Et là, après ça, j'ai toujours continué en écriture voyant, mais j'ai quand même gardé mon braille, j'ai toujours tenu à le garder. J'ai le braille de base là, que je peux me débrouiller avec. Là. Je trouve que c'est toujours un facilitant de l'avoir.
Et avec 3 %, tu étais quand même capable de fonctionner? Là,
Ben, je dirais que ça a été difficile. J'étais capable de fonctionner, mais les lectures, ça me demandait énormément. C'était très, très, très exigeant. Alors, souvent, si j'avais des grandes lectures à faire, c'est ma mère qui m'élisait. Parce que sinon, moi, ça me prenait tellement de temps là, que le temps de lire, des fois, je comprenais pas le début de la phrase. Mais avec le temps, puis la rapidité s'est installée un peu plus, ça a été plus facile. Mais je trouve ça quand même, j'ai toujours trouvé ça quand même assez, c'est quand même laborieux. Là. Si j'ai des grands textes à lire, là, comme là, c'est bien, à cette heure, on a les ordinateurs, fait qu'avec les synthèses vocales, avec ZoomText, j'ai l'agrandissement, mais je le mets sur la synthèse vocale pour justement que si j'ai pas à lire, ça va plus vite. Mais c'est le temps là, qu'on prend, ça exige beaucoup, fait que j'ai jamais été, je pense que c'est peut-être pour ça que au primaire, puis même au secondaire, j'ai jamais aimé lire. Je trouvais ça trop long, trop laborieux.
Mais tu dis, j'aimais moins lire parce que c'était laborieux, mais est-ce que tu aimais en général l'école? Tu étais quelqu'un qui aimait apprendre?
Non, j'étais pas. Je peux pas dire si je suis quelqu'un qui aimait l'école. J'aimais pas ça vraiment. Là. J'y allais. Il y a certaines matières que j'aimais, mais j'étais pas. J'ai l'impression. Maintenant, quand on voit tout ce qui se passe, que probablement que j'avais un déficit d'attention. Parce que moi, écouter un professeur, ça allait, mais au bout de quelques minutes, là, je partais dans l'une, je revenais. Fait que c'était difficile de suivre un peu toutes les consignes. Ben, pas suivre les consignes, mais suivre toute l'information que le professeur donnait pendant le cours. Là, j'en perdais des bons bouts.
Puis de rester en place, là, j'imagine, sans trop bouger, puis tout ça, puis être concentré, là.
Bon, c'était surtout la concentration parce que à l'école, non, j'étais pas quelqu'un là, qui avait besoin de bouger. Je bouge beaucoup, mais je veux dire, je n'avais pas ce problème-là. C'était vraiment là, la concentration. Écouter quelqu'un longtemps, là, puis même encore aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est pour ça que j'ai comme déduit ça. Je devais avoir des problèmes là, de concentration. Là. Rester, écouter quelqu'un, là, ça vient. Il me perd à un moment donné.
Puis c'est vrai qu'à à cette époque-là, on n'entendait pas parler de ça. Hein. C'était.
C'était pas connu, c'est ça. Ils ne savaient pas. Puis si tu n'étais pas perturbant dans une classe, ben c'était soit que tu n'étais pas bon ou tu étais bon. Mais tu sais, c'était pas connu comme aujourd'hui. Là.
Et tu parlais de matières que tu aimais. C'était quoi les matières que tu appréciais le plus?
J'aimais les mathématiques, j'aimais la géographie. Il y avait quand même pas mal de matières. Je dirais que le français, c'était pas dans mes meilleurs. En général, c'était quand même bien. C'est sûr que moi, j'aimais beaucoup la musique. Ça, c'est quelque chose que j'adorais. Mais l'école, c'était. Tu sais, on y allait par obligation, on n'avait pas le choix, tout le monde passait par là. C'était un passage obligatoire, mais c'était correct. Tu sais, j'aurais aimé être meilleure, mais j'ai l'impression qu'à cause de ça, j'avais de la difficulté. Là. Puis il y avait quand même aussi le fait d'être en écriture voyant, ce qui me ralentissait beaucoup. Fait que ça, peut-être tous ensemble a fait que ça m'a pas donné le goût tant que ça. Là.
OK. Et là, rendu au secondaire, quand ça est venu le temps de changer d'école, comment ça a été ce changement-là?
Je dirais que j'étais dans les récalcitrantes, là, je t'accompte ça. Là. Moi, de me ramasser dans une école avec plein de voyants, j'ai trouvé ça très dur parce que, premièrement, les professeurs n'étaient pas formés dans ce temps-là, tu sais, il y a des professeurs qui, pour les cours de base, français, maths, anglais, tous ces cours-là, on avait des classes avec juste les handicapés visuels ensemble. Fait que les professeurs étaient habitués, connaissaient l'handicap. Mais tous les autres cours, que ce soit de la géo, de l'histoire, de bio, n'importe quel cours, là, on arrivait dans une classe où le professeur se faisait dire au début de l'année, « Ah, ben là, tu vas avoir un élève ou deux élèves handicapés visuels dans ta classe. » Mais le professeur avait beau avoir un centre de ce qu'on appelait centre de ressources là, pour aller s'informer, pour aller faire grossir la matière là en caractère, puis tout ça. Ça reste qu'il était pas au courant comment ça fonctionnait. Fait que t'arrivais je me rappelle, dans les cours de géographie, le professeur écrivait au tableau. Puis moi, j'étais obligée de demander à la fille à côté de moi de me lire, de me dire qu'est-ce qu'elle écrivait, parce que je ne pouvais pas le voir. Puis elle essayait de me le dire en prenant des notes. Puis le professeur n'arrêtait pas de nous réprimander tout le temps en disant « arrêtez de parler ». Là, j'avais beau lui dire « oui, mais c'est parce qu'elle me lit les notes. Oui, OK, c'est beau. » Mais au bout de 5 minutes, elle recommence encore. Fait que tu sais, ou elle te montre une carte géographique, puis elle dit « là, on a le fleuve, tel fleuve. Là, on a telle montagne, là. » Mais ça ne me disait rien. Fait que le soir, moi, j'essayais de faire les travaux, mais je me comprenais pas grand-chose. J'essayais de retrouver un peu, mais fait que c'était très difficile. Là, pour certains cours, moi, je trouvais qu'il y avait un manque. Là. Il aurait fallu que les professeurs soient mieux informés sur l'handicap visuel.
Et de dire plus qu'est-ce qu'ils écrivaient au tableau aussi, ça aurait pu être aidant.
Oui, ben ça aurait été aidant. Puis un cours de géographie, là, une carte géographique, c'est beau dire en haut à droite, vous avez tel pays, mettons, un peu en bas à gauche, c'est parce que ça ne dit pas grand-chose. Il aurait fallu vraiment qu'on l'ait devant nous en même temps, qu'il y ait, mettons, de la couleur, dire ben, le bleu ici, c'est l'Europe, ou d'avoir des choses plus précises qu'on n'avait pas. Là.
C'est ça, parce que de dire en haut, c'est ci, en bas, c'est ça, mais là, à l'examen, il faut que tu le retrouves comme les autres ont à le retrouver sur le... La carte,
ouais.
J'imagine, tu sais, ça fait.
Ouais.
Que...
Ben, c'est ça, c'était plus difficile. Puis moi, dans ce cours-là en particulier, que j'ai trouvé très difficile, il y avait une autre personne handicapée visuelle, mais qui, de son bureau, était capable de voir au tableau. Fait qu'elle n'avait pas ce problème-là. Fait que le professeur ne pouvait pas, tu sais, lui, dans sa tête, c'était, ben, l'autre est capable, t'es capable.
Oui, c'est là que nous, on le sait avec le temps, qu'on voit c'est quoi la différence de voir... De telle distance ou de telle, tu sais, il n'y a pas une vision qui est la même, là, qui est, c'est très différent, mais là, ouais, pour le professeur, c'était encore plus difficile probablement pour lui à comprendre ça, là.
Oui, ben c'est ça, parce que déjà qu'il n'était pas au courant, fait que là, c'est si de démêler, de comprendre qu'il y a deux personnes handicapées visuelles dans sa classe, puis qu'il y en a un des deux qui dit qu'il voit rien, ça devait être assez compliqué. Là.
Et comment tu t'en es sorti malgré tout? Est-ce que.
Ben dans le fond, moi, j'ai fait mon cours, j'ai fini mon secondaire 5 avec une mention en téléphoniste réceptionniste. Moi, je voulais m'en aller là-dedans. J'aimais beaucoup le public. J'aime beaucoup travailler avec les gens. L'accueil, j'aime ça. J'aime parler avec le monde. Fait que c'est ce que j'avais trouvé parce que je ne me voyais pas aller au cégep. Là, ça ne me dit rien du tout. Fait que j'ai été plutôt dans ce domaine-là. Au début, je voulais m'en aller en comptabilité. Mais j'ai eu le même problème dans mes cours de comptabilité. Là, pendant le cours, je n'étais pas capable de voir au tableau. Fait que c'était plus difficile, là, même si j'avais le grand livre, là, qu'il l'avait grossi ou quoi que ce soit, là, je trouvais ça trop complexe, là, d'essayer de tout comprendre ça, mais sans vraiment voir ce qui se passe.
Oui, ben là, c'est ça, hein. Tu te ramasses avec des tableaux, puis des tonnes de chiffres, puis des tonnes de calculs, puis c'est comme...
Ouais.
Tu peux pas le visualiser plus que ça, là, c'est ça.
Ouais.
Ça demeure très abstrait.
Ouais.
Et bon, tu disais le public, tout ça. Comment tu t'es aperçu que c'était quelque chose qui t'intéressait?
Si on revient vraiment, là, je reviens quand je suis rentrée à l'école, au primaire. Quand je suis arrivée en première année, qui est arrivé des nouveaux élèves, moi, je voulais tout de suite m'occuper d'eux, de les aider à se familiariser avec l'école. Ceux qui avaient des problématiques, j'étais prête à les aider. Puis ça, c'était pas pendant une semaine ou deux, là, je le faisais à l'année longue. Fait que j'avais toujours un besoin d'aider les autres, d'être là, que ce soit de mettre ça agréable pour tout le monde, que tout le monde soit capable de tirer son épingle du jeu.
OK, de les aider à se familiariser, puis à se sentir bien, là, à se sentir accueilli.
Oui, puis s'il y avait des pros, tu sais, comme à un moment donné, j'avais une jeune fille qui avait des difficultés là, à se mouvoir, là, avait des problèmes d'obésité, ben je m'organisais pour la faire marcher à tous les midis. Tu sais, j'ai toujours été un peu ce style-là, là, un peu Mère Teresa, si tu veux, là, mais c'était pas le but, c'était vraiment d'aider les gens. Là, moi, c'était dans ma nature.
C'est ça, ça te venait naturellement. Là, c'était personne qui te le demandait, puis ça te demandait pas un effort surhumain, là, tu le faisais de bonne grâce, là.
Oui, okay. Oui, c'est ça.
Ça que là, est venu le temps un peu de choisir ce qu'on veut faire dans la vie. T'es venu l'idée de suivre ce cours-là. Ça a été mieux qu'en comptabilité, j'imagine?
Oui, oui, oui. Oui, oui, pas mal mieux.
Et est-ce que tu as travaillé là-dedans après? Est-ce que...
J'ai fait des stages, mais on est tombé dans l'époque... 1978 autour d'eux, où c'était très difficile de trouver de l'emploi. Et le taux là, de chômage, il était, c'était haut. Là. C'était très difficile, même pour un voyant. Là,
c'est ça, pour tout le monde.
Oui, c'est ça. C'était très, très difficile. Fait que j'ai été, je pourrais dire, là, sûrement 5 ans là, à pas travailler, à me demander quoi faire. Ben, j'ai travaillé un petit peu là, au gouvernement des 3 mois. Là, ils appellent ça des temps partiels TPO, temps partiel, c'est quoi donc? En tout cas, je m'excuse, je me rappelle pas du terme exact. Là,
Des programmes. De...
Oui, c'est ça. C'était des programmes là, de temps partiel. Là, on travaillait pour 3 mois. Ça pouvait être agent de bureau, ça pouvait être de gêne fait comme téléphoniste réceptionniste, mais c'était juste pour une petite période. Après ça, ben, ils ne voulaient pas garder personne à temps plein. Mais ça, j'en ai fait quelques-uns à travers. Puis, si on va en 1984, je suis rentrée ce qu'on appelle au centre d'accueil Louis-Hébert. Là, j'ai rentré comme préposée aux bénéficiaires, qui n'est pas du tout dans le même domaine. Mais je suis rentrée là comme préposée, puis j'ai resté là jusqu'en 94. Fait que c'est là qui a arrêté ma carrière, là, si on veut, là, de travailleuse pour un bon bout. Ce qui a fait... Oui?
Non, j'allais dire, tu étais préposé aux bénéficiaires, là, comme ce qu'on connaît maintenant, là, pour aider
oui.
les...
Oui, pour aider les personnes âgées, les personnes malades. J'ai fait... dans le fond, j'étais aux soins. Les personnalités, les personnes en phase terminale. Des personnes aussi qui des semi-autonomes. Mais j'étais ce qu'on appelle le centre d'accueil Weber, c'était dans le temps pour des personnes handicapées visuelles qui étaient bénéficiaires là-bas, qui étaient des. C'est eux autres qui étaient là. Alors je connaissais l'handicap. Pour moi, c'était facile là, pour les guider. Puis les soins, ben, quand on s'occupe d'une personne, on a un chiffre. Mettons, je faisais de 8 à 4. quelqu'un qui suit ensuite de 4 à minuit et minuit à 8, ainsi de suite. Alors, moi, je me disais, si jamais il y a une petite rougeur qui est trop pâle que j'ai pas vue, c'est sûr que la personne qui va me suivre va le voir. Mais on avait l'information, si des fois l'infirmière nous disait « Surveillez telle patiente, on a vu telle chose », j'étais capable quand même là, de faire mon travail tout ça. Là,
d'avoir le suivi. Là,
d'avoir le suivi qu'il fallait. Là.
Et là, tu as fait ça pendant 10 ans?
Oui, une dizaine. De 10 ans. Il faut que je sois honnête, je l'ai fait de peut-être, je dirais un 5 ans, mais ensuite, j'étais sur les congés de maternité. C'est ça qui a fait que j'ai arrêté de travailler en 94, mais je ne travaillais plus depuis 89 environ.
OK, parce que là, il y a des enfants qui sont arrivés, là.
C'est ça. C'est que là, je ne voulais pas mélanger les choses. On parlait de travail, dans le niveau travail. Mais pour cette période-là de ma vie, là, ça a été son niveau de travail.
OK. Et là, on parle de quoi? Des enfants?
je dirais avant les enfants, c'est quand j'ai commencé, quand j'ai fini l'école, avant de finir l'école. En 76, à l'école, est arrivé un professeur d'éducation physique. Parce que pour l'éducation physique, on était à part des voyants, on était vraiment juste entre nous autres. Et puis, il nous a parlé qu'il y avait des jeux pour des personnes handicapées visuelles qui existaient. Et dans le temps, ça s'appelait pas des Paralympiques. Là, c'était les Paralympiques, mais on commençait là, vraiment là, avec des jeux régionaux et tout ça. Puis, il nous a fait connaître ça. Fait que je me suis mis à faire de la compétition, du sport. Puis, j'ai découvert que je pouvais m'en tirer bien. Fait que fait des jeux. Mes premiers jeux ont été en mars 77, puis à partir de là, j'ai fait une carrière paralympique, là, jusqu'en 93. J'ai arrêté en 93.
Et c'était dans quoi? C'était dans quel sport?
Au début, j'étais en saut en hauteur, lancé du javelot, j'ai connu le goalball. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, là. C'est très populaire beaucoup à Montréal aussi.
Oui.
Au goalball, là, je me suis rendu compte que je performais mieux. Alors, j'ai continué ma carrière en goalball et c'est là que je me suis mis à faire des Olympiades et tout ça. J'ai quand même fait une Olympiade en 80 en athlétisme, mais c'est vraiment au goalball là, que j'ai performé. J'ai été nommée meilleur joueur féminin canadien là, des années 80. Pour la décennie, là. Fait que c'était vraiment là-dedans. Ouais, c'était vraiment là-dedans que je performais, là.
Est-ce que, avant d'entendre parler de ça, est-ce que tu étais sportive un peu? On a peut-être escamoté ça.
Oh, même pas.
Non? OK.
Je n'étais pas une grosse sportive. J'aimais faire jouer dehors, tout ça, mais non, j'ai jamais dit un jour je vais faire un sport, je vais me mettre à faire de la compétition. C'était pas dans. Non, j'ai jamais pensé à ça. Les découvertes, là, vraiment.
C'est venu de cette rencontre-là avec ce professeur-là d'éducation physique.
Oui, c'est vraiment là que ça a parti.
Et là, est-ce que ça occupait beaucoup de temps, tout ça? Est-ce que tu as fait beaucoup de déplacements, des voyages,
Oui, dans le fond, moi, j'ai commencé mon premier voyage, comme je disais, c'était au mois de mars 77 à Halifax, mais j'ai fait les Jeux olympiques, les Paralympiques en 80 en Suède. Ensuite, on a eu en 84, en 80, c'était en Hollande. En 84, c'était en Suède. Puis en 88, à Séoul, en Corée. Puis après ça, je devais faire l'Espagne, mais j'ai arrêté un an avant. Là. Mais j'en ai fait quand même à travers les Jeux canadiens, par les Panames. Puis on avait beaucoup de camps d'entraînement, mais on avait moins de compétition qu'aujourd'hui que les gens ont. Là. Comme on dit, on a défriché, ça commençait. Hein,
c'est ça.
On était vraiment au début. Là. Mm-hmm. On défrichait. Là. Le goalball, au début, quand on a commencé à jouer, on jouait sur des tapis en short. Là, fait que c'était pas comme on voit aujourd'hui. Là, on en a vécu des brûlures. Là. on a appris à s'équiper tranquillement.
Ah ouais, à se protéger un petit peu, là, parce que...
Oui.
Et l'aspect voyage, déplacement, est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait, ça? Est-ce que c'est la première fois qu'on sort, qu'on se déplace? Là, tu me parlais de places qui sont plus anglophones, d'autres pays, tout ça. Est-ce que c'était pour toi comme une grosse aventure?
Moi, on n'a pas voyagé beaucoup. On est allé, tu sais, un peu comme plusieurs familles faisaient, peut-être une ou deux fois, on est allé au Larchard, mais on n'a jamais voyagé beaucoup, mais j'ai toujours aimé, même si on allait juste à Montréal, moi, j'aimais ça, là, sortir, faire un voyage, j'ai toujours aimé, je suis une voyageuse, j'aime ça. Fait que c'est sûr que là, c'était gros, là, juste de partir, prendre l'avion, c'était quelque chose, là. Tu pars, puis tu découvres, puis là, tu découvres que l'anglais, c'est vrai que ça existe, parce que à Québec même, dans les années 60, de l'anglais, nous, on n'entendait pas beaucoup parler, fait qu'on se demandait à quoi ça servait d'apprendre ça, là. Mais quand tu te mets à voyager, tu te dis « Oups, oui, c'est vrai, là, il y a plusieurs langues, de découvrir les endroits, découvrir les gens, de parler avec eux autres, c'est de quoi que j'adore. »
C'est ça, là, on arrive ailleurs, puis là, on entend beaucoup moins de français autour, là, on entend plus, comme tu dis, de l'anglais ou d'autres langues ou tout ça,
ouais.
Là, puis on voit là, plus, de façon plus, plus présente, là, que... c'est ça, ça valait peut-être la peine d'apprendre un peu d'anglais.
Oui, puis je me rappelle la première fois que j'ai, en 80, quand t'allais en Hollande, juste de traverser l'océan, tu te dis, mon doux, là, t'es loin de chez vous, là, mais tu sais, en même temps que tu sens que t'es loin, t'as l'impression que c'est pareil quand même, c'est une autre langue, mais c'est quand même des villes, c'est des gens, mais ça te pousse à aller voir, par curiosité, à aller voir comment ils vivent eux autres, c'est quoi leur routine, tu sais, c'est la découverte, c'est toute la découverte autour de ça qui fait que ça te fait grandir, puis en même temps, ben, c'est là que tu vois si t'aimes ça ou pas, là, si tu veux découvrir, continuer de voir des nouvelles choses, parce que t'as beau en voir à la télévision, t'as beau en apprendre à l'école, mais de le vivre, c'est une autre histoire.
Là. C'est ça, c'est pas du tout la même chose. Là, en voyage, on est sur le terrain, là, c'est le cas de le dire.
Oui.
Et vous aviez le temps un peu de visiter ou de découvrir les endroits?
Un peu, mais... Et pas tant que ça. On avait un petit peu de temps, dépendant des endroits où qu'on allait, puis des jeux aussi qu'on faisait. Là, c'est sûr qu'aux Olympiques, on était là un 3 semaines, un mois. Fait qu'on avait quand même, mais souvent le temps, on avait des entraînements, on avait des compétitions. Fait que le temps qu'on avait, c'était d'aller en ville, mais on pouvait pas dire on va aller visiter tel endroit si on n'avait pas ce temps-là. C'était pas possible. Fait que j'ai fait des endroits, mais j'ai à part de voir le centre-ville ou quelque chose autour, mais on n'a pas eu cette chance-là. C'est sûr, quand on se promenait aux États-Unis ou au Canada, des fois, tu avais un petit peu de temps, une journée pour... Tu sais, ils nous organisaient de quoi pour aller visiter un endroit en particulier, mais c'était très limité.
Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, hein, parce que la raison première pour laquelle vous étiez là, c'était pour le goalball.
Ça fait. Oui, c'est ça. C'était la compétition. Fait qu'on avait un couvre-feu. Surtout avant de compétitionner, il n'y en était pas question. Puis on avait quand même beaucoup d'entraînement à faire. Mais un coup que la compétition était terminée, c'est là qu'on avait un petit peu de temps, mais c'était pas. Souvent, c'était pas grand-chose. Puis il n'y avait pas rien d'organisé. Là, fait qu'on allait au centre-ville, puis c'était d'aller dans les boutiques, d'aller voir un peu autour. Mais on n'avait pas cette chance-là.
Et l'esprit d'équipe, c'est important dans ces moments-là, quand on est loin de chez soi, quand on.
Oui, ben, c'est, je dirais que c'est une deuxième famille. Ton équipe devient ta famille, devient. Puis quand je parle d'équipe, c'est pas juste comme moi, j'étais au goalball, il y avait l'équipe féminine, mais il y avait l'équipe masculine. C'est toute l'équipe. au complet de Goldbar. C'est toute la gang qui est importante. Tu te soutiens, tu es là, tu vis les émotions ensemble, que ce soit les défaites, que ce soit les réalisations. Tu as besoin de ton monde autour, puis ça devient ta famille. Ça devient vraiment des gens très... Tu as toujours un ou deux là amis plus proches, là, où ce que ça remplace ton frère, ta sœur.
Sinon, ben c'est tous ceux qui font partie du voyage là, qui font partie.
Oui, puis tu as toujours des gens qui sont là aussi, que ce soit des coachs ou des physios. Il y a toujours des gens où que des fois tu es plus à l'aise. Fait qu'il y a toujours quelqu'un là, qui peut être là si jamais il y a un problème.
Et là, tu disais, parce que là, tu disais à un moment donné, j'ai arrêté, donc tu aurais pu forcément continuer plus longtemps. Est-ce que ça a été difficile, ça? Est-ce que ça a été...
Oui, c'est difficile. Moi, des fois, je dis aux gens, je compare ça un peu comme une drogue. T'as de la misère à arrêter. Là. T'es en manque. Puis, c'est l'esprit de compétition, l'esprit de vivre ces moments-là. Ça te reste toujours l'adrénaline. Je m'entraîne encore pour le plaisir là, de me tenir en forme. Puis, si quelqu'un me dit que t'es pas capable de faire telle affaire, je vais éprouver que je suis capable. Tu sais, ça reste dans nous autres. Là, ça peut pas partir. L'esprit compétitif, là, de soi-même, là, pas dire je vais te battre là, à chaque fois que je veux faire de quoi, mais la compétition, ça reste imprégné en nous, je trouve. En tout cas, pour moi.
OK. Ben c'est intéressant quand même d'avoir ce point de vue-là, parce que si tu dis que c'est un peu comme une drogue, ça, parce que s'entraîner, jouer, tout ça, l'esprit d'équipe, ça devient comme une dépendance, ça devient comme ancré dans notre style de vie.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai peut-être arrêté un an en tout là depuis ce temps-là, mais j'ai toujours continué de m'entraîner juste pour rester en forme, pour vivre, d'avoir une meilleure santé. Puis en ayant des enfants, j'ai toujours dit que c'est important de rester en forme pour être capable de les suivre, d'être capable de faire plein de choses avec eux. Puis même encore aujourd'hui, j'ai des petits-enfants, puis je me dis c'est important que je sois en forme puis d'être capable de courir avec eux, de jouer, de sauter, de faire plein de choses avec eux.
Effectivement, c'est bien d'y penser aussi, tu sais, quand on est jeune, là, tu sais, quand on est en forme, puis en prévision justement de plus tard. Puis là, ouais. Ça fait 2-3 fois qu'on parle d'enfants, mais avant d'avoir les enfants, il y a eu forcément un conjoint.
Oui. Moi, j'ai rencontré mon mari en 76, quand il y a eu l'intégration. Lui, c'est une personne handicapée visuelle. Lui a perdu la vue à l'âge de 13 ans. Il est allé à Nazareth-Louis-Braille. Et puis, quand il y a eu l'intégration, justement, là, que tous les élèves devaient s'en aller dans leur secteur, là, dans leur milieu pour aller à l'école, lui est arrivé à Québec, c'était quelqu'un de Québec. Et puis, il est arrivé à la polyvalente de Charlebourg. Puis moi, ben, comme j'ai toujours fait, j'ai pris les nouveaux élèves qui arrivaient, je leur ai fait visiter l'école. Puis c'est là que vraiment là, j'ai appris à le connaître, puis qu'on a commencé à sortir ensemble.
OK, qui est arrivé dans ton école, dans le fond, puis tu lui as fait visiter. Vous avez fait connaissance comme ça.
Oui.
C'est quand même bien.
Oui, ben c'est ça. C'est vraiment un hasard parce que moi, j'étais à cet âge-là, je me disais jamais je vais sortir avec un handicapé visuel, mais il faut jamais dire jamais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis on s'est mis à faire du sport ensemble. On avait des intérêts, là, on avait beaucoup d'intérêts, les mêmes intérêts. Alors, c'est comme ça que ça a parti notre histoire. Puis je me disais, ben, on est jeune, ça ne veut pas dire que ça va toffer, mais ça a toujours fonctionné.
Et toi, tu te disais que tu ne sortirais pas avec un autre handicapé visuel?
Non, je ne voulais pas sortir avec un handicapé visuel parce que je trouvais qu'on est tellement limité au niveau là, de l'autonomie que je ne trouvais pas ça évident. Tu sais, je me disais, oh non, tu sais, c'est pas un avantage. Puis. Tu sais, à quelque part, tu veux être un petit peu comme les autres puis dire, ben je veux avoir un semblant de vie normale. Là. Tu sais, quand tu es jeune, là, à cet âge-là, là, tu te cherches beaucoup. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, je vais être comme les autres. Je vais être normale comme les autres, puis avoir un chum là, comme tout le monde. Là. Tu sais, c'était ma manière de voir ça. Là.
Mais c'est le cœur qui a décidé. Là. C'est...
Oui, ben c'est ça. On n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que c'est pas ça qui est arrivé, mais regarde, on s'en est très bien sortis. Fait que j'ai toujours dit, on peut pas dire jamais. On sait pas ce qui peut l'avenir nous réserve. Puis dans notre cas, ben, ça a bien fonctionné. Puis on avait des intérêts, les mêmes intérêts. Fait que là, bon, comme on dit, on a fait un bout de chemin. Puis ce chemin-là, bon, on le continue encore aujourd'hui.
Parce qu'à un moment donné, bon, là, quand vous vous êtes connus, vous restiez chacun, évidemment, chez vos parents ou en tout cas.
Oui, oui, oui.
À un moment donné, vous avez décidé de demeurer ensemble, j'imagine. Et puis.
Ben, c'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, tu décides que là, tu vas avoir des enfants. Fait que tu commences avec un.
Mais tu dis, on décide d'avoir des enfants. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais déjà pensé? Est-ce que tu voulais des enfants plus quand tu...
Oui, même jeune, là, moi, j'ai toujours voulu des enfants. Ça, je pouvais pas imaginer ma vie sans enfants. Là. Moi, j'en voulais au moins 4, ça, c'était certain. Je voulais des enfants. Lui, il en voulait aussi. Il en voulait au moins 2, tu sais, il en voulait aussi. Fait que, au moins là-dessus, on était d'accord, on en voulait tous les deux.
Ça commence bien pour justement... commencer la famille, là. C'est
ouais.
Parce que, bon, on dit, comme tu as dit, on commence par un. C'était en quelle année, ça, le premier enfant? Il est quelle année?
En 1987.
OK, d'accord. Donc, un premier enfant.
Oui.
Et là, en tant que mère avec un problème de vision, un père avec un problème de vision, est-ce que ça a été... j'imagine que la réponse, c'est oui, mais il a dû quand même avoir quelques défis, là.
Ah, ben c'est certain qu'il y a des défis, mais comme je dis souvent, c'est quand l'enfant il vient au monde, que ce soit que tu sois voyant ou pas, tu apprends à le connaître, tu apprends à vivre avec un bébé, avec un être humain que tu sais pas trop comment agir avec. C'est tout nouveau. Fait que comme tout le monde, ben, tu apprends. Avec les jours passent, puis tranquillement, tu en apprends à tous les jours, tu découvres plein de choses. Fait que on a été un peu comme les autres. C'est sûr qu'au niveau, moi, j'avais quand même un petit pourcentage de vision. Fait que moi, dans mon milieu, dans ma maison, il n'y a aucun problème. Ma cour était clôturée. Fait que quand l'enfant commence à marcher, à se promener, tu t'organises pour mettre ça sécuritaire. Mais je me suis jamais privée de sortir ou de faire quoi que ce soit. On avait des règles. Mon mari, pareil, lui, il voit pas du tout. Fait que lui, s'il allait avec les enfants quelque part, à l'extérieur de la cour, au parc ou quoi que ce soit, ben il y avait de l'information. Les enfants savaient que si on les appelait une fois, il fallait qu'ils répondent. S'ils répondaient pas, on appelait deux fois. Puis s'ils répondaient pas, on n'y retournait pas. Fait que ça, on n'a jamais eu à se rendre à trop. Puis lui, il sifflait. Fait que là, les enfants, ils étaient habitués. C'est des règles qu'on met en place, mais un peu comme n'importe quel parent va mettre ses limites, va mettre ses règles.
Mais ça, là, c'est des règles vraiment très importantes. Parce que là, comme tu dis, si les enfants répondent pas, vous autres, vous n'êtes pas sûrs qu'ils sont là ou pas. Là. Ça fait que c'est quand même un gros enjeu. Là.
Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qu'au début, même sortir de je sais pas moi, aller prendre une marche quand l'enfant est dans la poussette, c'est une chose. Quand il marche à côté, il fallait qu'il donne la main. C'est où qu'il tienne la poussette, c'est pas tu marches en avant. C'est comme ça. Fait que tu sais, tu connais tes enfants, tu sais s'ils sont capables de respecter les règles. Puis l'enfant, s'il est habitué dans ça, il changera, tu sais, il va être habitué de cette manière-là, pour lui, c'est normal. Fait que, puis comme je dis, au parc, des fois, je criais le nom de mon plus vieux, puis il était en arrière de moi, puis là, il me disait, je suis là. Ben, là, je savais pas ce que tu étais, mais tu sais, les enfants, ils comprenaient, là, c'est comme ça que ça marche chez nous. Pour eux autres, partout, c'est toute la même manière. Un enfant, lui, il peut pas comparer ce qui se passe dans une autre maison quand il est tout petit, là. Pour lui, si c'est comme ça, ben, ça doit être partout pareil.
Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas si je peux poser cette question-là, mais ils s'en aperçoivent comment? Est-ce qu'ils vous en parlent à un moment donné? Est-ce que Il y a des...
Ben, je sais que mon plus vieux, une anecdote, là, il avait peut-être 5 ans autour d'eux. À un moment donné, il était dehors, puis quand mon mari est sorti, il l'a appelé, puis il n'a pas répondu. Puis là, il l'appelait, mais il s'est caché en arrière d'une poubelle. Mais c'est sûr qu'à 5 ans, un enfant, là, c'est quand même bruyant, là. il s'est caché, puis il n'a pas répondu. Puis là, ben lui, il l'a entendu, il l'a su. Fait qu'il est allé voir, puis il a expliqué. Il dit, quand je t'appelle, il dit, faut que tu me répondes, parce que moi, je te vois pas. Faut que je sache où ce que t'es, puis moi, je m'inquiète. Mais en tout cas, il a fait comprendre, puis il l'a jamais refait. Mais c'était comme... Peut-être qu'il voulait le tester, peut-être qu'il a pas osé le dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête, mais c'était un peu comme le test en voulant dire, ah, ben là, je me rends compte que il y a de quoi que peut-être c'est là qu'il a fait le déclic. Puis j'ai d'autres de mes enfants qui m'ont dit qu'ils s'en sont vraiment rendus compte vers 7-8 ans. Mais avant ça, pour eux autres, on était comme les autres.
Ben, sûrement un peu comme nous aussi, hein, tu sais, on n'a pas toute conscience de c'est quoi voir, tu sais, tu dis, je vois pas, je vois mal, tu sais, on voit, nous autres, puis on pense que c'est comme ça, là, ça fait que
c'est un peu comme ça aussi pour eux. Oui, ben pour eux autres, de comprendre ça, ils savaient que s'ils m'emmenaient un dessin, ils me le montraient à moi proche, ils l'expliquaient à leur père, puis aux grands-parents, mais ils le montraient normalement, mais... Pour l'enfant, lui, il ne comprend pas pourquoi que maman, je fais ça à mon père. Lui, c'était comme, ben, c'est comme ça. Maman, c'est de même, mon père, c'est de même, mes grands-parents, c'est comme ça. Mais il ne comparait pas à dire pourquoi mes grands-parents, je fais ça de même, puis toi, je fais. Tu sais, pour eux autres, c'est comme ça. Ils ne se posent pas la question à savoir, tu sais, pourquoi on mange avec une fourchette qu'on ne mange pas avec une cuillère. Tu sais,
c'est comme ça. Et là, combien que vous en avez eu d'enfants?
En fin de compte, on en a eu 6.
Quand même, hein? C'est beaucoup.
Oui, oui, oui. Ben moi, on rit souvent parce que j'ai dit, moi, j'en voulais 4, t'en voulais 2, on a eu 6.
les quatre miens puis les 2 tiens.
Oui, c'est ça. Non, mais comme on dit, on commence avec un, puis à un moment donné, tu dis, ben, pourquoi pas un deuxième, puis là, ben, ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, ben, on s'est rendu à 6. C'est vraiment le coup de la vie, à un moment donné, qui dit, ben, on va arrêter, parce que je pense que j'aurais aimé en avoir encore, mais à un moment donné, tu dis, ben là, c'est quand même l'ouvrage, il faut s'en occuper, puis c'est exigeant, là.
Ben oui, puis, tu sais, je veux dire, c'est nettement en haut de la moyenne des familles du Québec, là, quand même.
Oui, c'est quand même beaucoup. Puis, il y a aussi que le fait que c'était pas héréditaire, notre problème de vision, c'est ça qui a fait aussi qu'on en a eu 6, là, parce que si ça avait été héréditaire, je sais pas, j'en aurais sûrement voulu au moins un, mais, tu sais, on n'aura pas eu 6.
Ça se serait peut-être arrêté à un ou deux, peut-être, là.
Oui, c'est ça.
Et juste par curiosité, le dernier enfant, il est né en quelle année?
Il est né en fin 1999.
Hey, ça fait que c'est 6 enfants en quand même pas tant de temps que ça. Là,
en 12 ans.
En 12 ans?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a eu 5 en 8 ans et quelques, puis l'autre est arrivé un petit peu plus tard. Fait qu'on a eu 6 en 12 ans.
Hey, ben c'est quand même super bon.
Oh, oui.
C'est toute qu'une expérience de vie. Puis tu as dit aussi grands-parents, c'est que vous êtes déjà grands-parents?
Oui. Oui, c'est ça. Ma fille, elle a deux petites filles, 4 ans et un an et demi à peu près. Puis mon garçon vient d'avoir une deuxième fille, fait qu'on est rendu avec 4 petites filles. Là.
Ah, et
la
pas...
plus vieille, il y a 4 ans, puis la dernière, 1 an. Fait que quatre filles en 4 ans.
Pas de petits garçons encore comme
petits enfants. Pas encore, non, c'est ça. À un moment donné.
Et là, est-ce que toi, à un moment donné, tu es retourné sur le marché du travail ou si là, les...
Ben dans le fond, c'est quand mon plus jeune est rentré en première année, là, j'ai commencé à me dire que j'aimerais retourner travailler. C'est ça que préposé. Moi, je voulais surtout à me trouver un travail, peut-être un petit 15 heures semaine, mais un travail qui me permettrait d'être à la maison le midi pour les enfants, puis d'être là quand ils arrivent de l'école. Puis, j'en parlais un petit peu comme ça. Puis, c'est François Côté, qui est une personne handicapée visuelle qui vit à Québec, que Lui avait parti un organisme là, qui s'occupait de faire de la formation, là, soit de la massothérapie, ou d'aider les gens à travailler, là, à trouver, à les former là, dans un domaine pour qu'ils puissent travailler. Puis il y en avait beaucoup aussi pour le téléphone, les réceptionnistes, tout ça. Puis là, ben, il m'avait parlé que peut-être que ça vaudrait la peine de regarder, voire d'agrandir l'organisme, puis de faire un côté plus loisir, s'occuper plus des loisirs, du sport, parce que moi, j'étais vraiment là-dessus. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis c'est là que j'ai dit on va changer le nom d'organisme pour l'appeler le Carrefour québécois des personnes aveugles, puis on va s'occuper vraiment de faire bouger les gens, parce que je voyais que les jeunes dans les écoles, les jeunes handicapés visuels, souvent à des cours d'éducation physique, ils avaient toute la technique, ils apprenaient, mettons, toute la manière de fonctionne le volleyball, mais ils jouaient pas. Quand il arrivait le temps de faire l'activité, ben les autres, ils pouvaient pas, fait qu'ils s'en allaient à la bibliothèque. Là, je me dis, c'est parce que les autres aussi ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire de quoi. Là.
C'est ça, tout l'aspect là, vraiment de faire de l'activité physique était comme un peu supprimé.
Ouais.
C'est vrai que ça peut devenir un problème.
Ben c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé, ben, j'ai fait de la sensibilisation dans les écoles pour justement leur faire des le goalball pour essayer d'emmener ça un petit peu dans les écoles. Puis, dans nos activités, nous autres, au début, quand on a commencé, j'organisais on avait un club de marche, ça commençait, là, on était 3-4, on avait du vélo tandem, puis l'hiver, on faisait de la raquette, ski de fond. C'était vraiment très minime. Puis tranquillement, ça s'est mis à grossir, je voyais les besoins. Là, à un moment donné, je voyais que la clientèle vieillissait. Fait que là, j'ai dit, bon, on va commencer à emmener plutôt des activités, essayer d'avoir un local, des activités intérieures. Fait que là, on a rentré le tricot pour aller chercher des personnes là, moins en forme. Et puis, on s'est mis à faire des jeux de société. Puis, tranquillement, j'ai dit, bon, on va essayer de mettre des soirées, peut-être une soirée par mois, ça serait bien. Fait que là, ben, on s'est mis à faire des soirées. Après ça, peut-être un petit voyage. Fait qu'on a rajouté des voyages. Là, après ça, ben, je voulais aller chercher le côté plutôt musical. Fait que là, on a parti une chorale, le théâtre. Là, on a un club de lecture. Puis tranquillement, ben, je grossis tout le temps. C'est rendu maintenant que je travaille à plein temps là-dedans. Et puis, on a des activités là, vraiment là, très variées là, selon ce que les gens veulent faire.
Parce qu'avant ça, tout l'aspect sport, loisirs, dans Québec, il n'y en avait pas vraiment?
Non, ben, à un moment donné, nous autres, on s'est organisé pour... il y avait un club il y avait un club de hockey là, avec les Lions de Québec. Mais ça a fonctionné un petit bout. Après ça, je pense que ça a tombé à l'eau. Il est arrivé de quoi? Je pourrais pas dire. Nous autres, on s'en occupait plus, là. Ça, c'est avant qu'on parte notre organisme. Mais il y avait ça. Sinon, je sais qu'à un moment donné, on s'était mis une gang ensemble et on allait jouer au baseball avec un ballon. On allait sur un terrain et on s'organisait comme on pouvait. Mais il n'y avait pas vraiment d'activité. Là, il y avait un organisme qui existait à Québec, mais je pense qu'eux autres, c'était une fois par mois. Puis c'était, mettons, une fois, ça pouvait être un épluchette de blé d'Inde. Puis une autre fois, c'était... tu sais, c'était pas du sport.
C'était une activité, là.
C'était une activité, point.
Se regrouper, là, mais...
C'est ça. Tandis, je trouvais qu'il y avait un manque qui était là de faire sortir les gens plus régulièrement, puis de les emmener à bouger vraiment, à faire un sport. Là. Juste la marche, ça coûte rien, c'est pas compliqué. Puis je me disais, c'est déjà un début. Là.
Ben, puis de leur donner un choix aussi, parce que quelqu'un, admettons, qui n'aime pas le hockey, ben il sera peut-être pas porté à aller dans le groupe de hockey, même s'il y en a un. Là. Tandis que là, si on offre la marche, si on offre... le vélo, si on offre le ski l'hiver, ça donne des choix un peu. Là.
Puis il y avait le fait aussi que nous autres, en ayant fait du sport de compétition, bon, on était très sportifs, mais c'est pas tout le monde qui est sportif non plus. Fait qu'au début, c'était de les faire sortir, de faire du sport. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des gens qui pas ça. Fait qu'il faut les faire sortir de chez eux. Puis la clientèle, quand je dis la clientèle vieillit, souvent c'est que l'handicap visuel arrive chez les personnes plus âgées, soit la dégénérescence, le glaucome. Ben là, à un moment donné, il faut que tu t'ajustes aussi avec la clientèle, la nouvelle clientèle qui arrive. Moi, tranquillement, je me suis fait connaître au niveau du centre de réadaptation, au niveau des travailleurs sociaux, des CLSC. Fait que là, ben, les gens ont commencé à m'appeler puis à me parler de clients là, qui peut-être qui ça serait bien qu'ils sortent de chez eux, qu'ils fassent une activité. Fait que c'est là que j'ai dit, ben là, on va essayer d'aller dans autre chose, que ce soit yoga, que ce soit de la mise en forme adaptée, ça, peut-être d'aller chercher dans tous les domaines, là, sport, loisirs, art, pour les faire sortir de chez eux, rencontrer des gens, parce que c'est important que leur côté social continue, parce que souvent, quand tu perds la vue, soit par un accident, une maladie, ben tes amis autour, au début, sont là, mais tranquillement, ben, ils s'éloignent un petit peu, puis tu te ramasses un peu plus isolé, ou il y en a qui s'isolaient complètement. Ben là, de recommencer à... C'est important aussi là, de recommencer à avoir un cercle social, à sortir, à avoir du monde. Ça aide aussi là, à essayer d'accepter un petit peu. T'as pas le choix. Là. Il faut que tu continues de vivre puis d'avancer.
Puis d'englober, comme tu dis, tout le monde, que ce soit avec l'âge ou avec le moment dans leur vie où le handicap est arrivé, puis... physiquement aussi, comme tu disais, ceux qui sont moins sportifs ou qui ont peut-être des fois d'autres problèmes un peu physiques, là, d'être capable d'inclure tout le monde, là, le plus de monde possible.
Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, l'organisme, il faut que la personne ait un handicap visuel, mais si elle a un handicap associé, que ce soit physique, que ce soit, je dirais, intellectuel, mais très, très léger, que ce soit de la sourdité, il n'y a aucun problème, là, mais il faut qu'il y ait un handicap visuel.
Ah, oui, c'est ça, au départ, un handicap visuel. Mais tu sais, des fois, avec l'âge, hein, il y a les articulations, il y a toutes sortes de petits bobos qui arrivent. Là.
C'est ça.
Il y a, là, avec la pandémie, est-ce que c'est... J'imagine qu'il n'y a pas de regroupement, c'est sûr. Est-ce que...
Ah, ben je vous arrête. Ah. Tout l'automne, nous, on a continué. Ben, dans le fond, quand la pandémie a commencé au mois de mars 2020, on a pris comme un deux semaines. Là, j'ai pris un deux semaines pour me dire, bon, ben il faut faire quelque chose. Là, on a mis, je dirais, c'est pas virtuel comme on entend parler beaucoup avec Zoom puis tout ça. C'est que là, j'ai commencé un bingo par courriel, par téléphone, parce que j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas d'ordinateur. Fait qu'il fallait que j'essaie de trouver une solution. Fait qu'il y avait un bingo, il y a eu, on a envoyé aussi à un moment donné, on appelait ça les causeries de Sophie. C'est une de mes membres qui me l'a offert. Elle envoyait, dans le fond, elle préparait à tous les jours un genre de petit journal, si on veut, là, où elle pouvait mettre un énigme, elle pouvait mettre une information, un petit quiz. Tu sais, il y avait toutes sortes de choses différentes. On a gardé ça jusqu'au mois de juin, fin juin. Fait que les gens recevaient un petit peu comme le matin, ils se levaient puis ils disaient, c'était un peu comme un journal. Ils allaient voir, bon, c'est quoi la pensée du jour, c'est quoi l'information qu'on a aujourd'hui. Ils pouvaient envoyer un courriel pour dire, bon, ben moi, en bingo, c'est quoi les numéros, j'ai gagné, j'ai tel numéro. Fait que tu sais, on a essayé d'adapter des choses à travers ça. Et puis, ben, pendant l'été, c'est sûr que là, on n'a pas pu faire de club de marche là avec les bénévoles. Ça aurait été trop proche, puis on pouvait pas obliger non plus là, les gens. C'est pas tout le monde qui s'en prêt non plus, là, c'est correct.
Mais sinon, les gens, pendant le printemps, puis tout ça, quand ils se levaient le matin, il y avait un petit jeu, une petite énigme, comme une petite pensée là, qui faisait peut-être en sorte qu'ils se sentaient moins seuls aussi, puis qu'il y avait un lien là, avec encore l'organisme. Là,
Oui, à tous les jours, 7 jours sur 7, il y avait toujours quelque chose, là, une information, un texte, n'importe quoi. Il y avait toujours de quoi qui se passait. Puis on a gardé ça vraiment jusqu'à la fin juin. Puis au mois de septembre, on a recommencé nos activités sur place, mais avec des groupes de 10 personnes et moins, à 2 mètres de distance, avec les normes de la santé publique. Puis on a arrêté au mois de décembre. Comme d'habitude, on a fait notre horaire. Cette année, on a même fait notre concert de Noël, mais lui, on l'a mis virtuel pour donner la chance aux gens de pouvoir le voir, avoir un petit peu de gaieté. Et puis en janvier, on devait recommencer, mais nous, nos locaux sont dans un centre d'accueil. Et puis, il y a eu de la COVID pendant le temps des fêtes. Fait que là, on a été obligés de ils ont pris notre local là, pour faire une cafétéria avec. Alors, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu recommencer en janvier. Mais aussitôt là, que le local a été prêt, on a recommencé nos activités, mais pas toutes les activités, c'est vraiment les activités là, où les gens sont assis. Là. Les cours d'espagnol, les cours de mise en forme intellectuelle, le club de lecture, toutes les choses qu'on n'a pas à bouger vraiment, on les a remis en place.
Oui, puis c'est ça, puis faut tout adapter à la circonstance. Là, on s'entend que
ouais.
Ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, puis il faut s'adapter. Puis...
Oui, ben c'est ça, puis il faut que ça soit sécuritaire, parce qu'on a quand même des gens vulnérables. Puis en étant dans le local où ce que nous, on est habitués, on est là depuis 2014, moi, je m'assure que le local est toujours propre avant et après les activités et que les gens, quand ils rentrent dans le local, se désinfectent les mains en rentrant, ils ont leur masque. Fait que tu sais, tout est vraiment pensé, on suit vraiment les normes à la lettre, puis je vous dirais que ça a très bien été, on s'en est bien sorti, tant mieux, mais on a essayé là, de garder quand même quelque chose, là, même si c'est minime, pour les gens qui se sentaient prêts à le faire. C'est pas tout le monde, puis si on respecte ça énormément, on se dit les gens qui sont prêts à le faire, le font, ceux qui ne le sont pas, bon, on essaie des fois de temps en temps, je vais en appeler un ou des fois les personnes vont m'appeler. On va essayer de trouver un moyen là, un petit peu.
De faire en sorte qu'ils ne se sentent pas trop isolés malgré tout. Là.
C'est ça, okay. C'est ça.
On a parlé vaguement tantôt, ben, brièvement, de la technologie. Toi, Daniel, la technologie, tu disais, bon, quand on était jeune, on n'avait pas les ordinateurs, tout ça. Quand les ordinateurs sont arrivés, quand toute la technologie, t'étais comment envers ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup, encore là, j'imagine que oui, mais qui t'a beaucoup aidé? Est-ce que t'étais... à l'aise avec la technologie, est-ce que c'était quelque chose que tu aimais apprendre, que tu aimais aller peut-être même des fois au-delà des nouveaux produits, au-devant des nouveaux produits, je veux dire?
J'aime beaucoup l'approche personnalisée, d'être avec les gens directement avec les personnes. J'ai pas eu le choix d'apprendre l'ordinateur, d'apprendre les téléphones intelligents, tout ça. Mais c'est pas ce que j'aime. C'est pas quelque chose que je cherche à approfondir. Là. Je le fais vraiment ce que j'ai besoin, mais le Zoom, d'aller en Zoom, d'aller avec Teams et tout ça, c'est pas de quoi qui m'attire, parce que je me dis, t'es quand même tout seul chez vous. Fait que moi, j'aime beaucoup la proximité des gens, d'être avec le monde, de sentir le pouls des gens. C'est important. Fait que c'est pas quelque chose qui me passionne. Là. Je le fais, oui, parce que on est dans ce monde-là, puis il faut se débrouiller avec ça, mais c'est pas de quoi là qui... Je suis pas une fan là, d'informatique. Là.
C'est ça. Il y a le côté humain qui est encore plus important. Là, que...
Oui, oui.
OK. Et ce qu'on comprend de l'entrevue qu'on vient de faire, c'est que tu sembles quand même pas t'ennuyer. Tu sembles avoir beaucoup d'occupations.
Oui. Oui, ben je suis active dans le sens que je m'entraîne, j'apprends l'espagnol. Je garde quand même parce que j'ai quand même des petits enfants, puis des fois les enfants ont besoin là parce que la garderie est fermée ou ils ont besoin pour quoi que ce soit là. Fait que j'ai quand même mon lien avec mes petites filles qui est là. On marche beaucoup. J'ai encore des enfants à la maison. Fait que j'ai encore un va-et-vient qui est là, juste entretenir une maison, la nourriture, le lavage. Il y a quand même, tu sais, de la vie qui est là, ça bouge encore autour de moi. Fait que je peux pas dire que le confinement, là, c'était très difficile. C'est sûr que j'ai hâte d'être avec mes enfants. Puis, mais quand même, là, on s'en sort bien, là. Tu sais, on se dit, ben il y a pire. Moi, je me dis tout le temps, il y a pire que ça. On n'a pas de bombe sur la tête. Tu sais, c'est plate, c'est vrai. On n'a pas cette liberté-là d'aller où on veut, quand on veut, mais on a quand même là une certaine sérénitude. Là. Sérénité.
Oui, et c'est important, hein, parce que il y a des gens, j'allais dire, c'est il y a des gens pires que nous, là, qui sont vraiment seuls, qui sont vraiment plus isolés encore. Là, ça fait que faut se compter quand même chanceux.
Ouais, ben c'est ça. Je me dis, tu sais, quand t'es tout seul dans un petit appartement ou dans une chambre, là, les personnes dans les centres d'accueil qui sont complètement isolées, je pense que les autres, ça doit être vraiment pénible. Puis même si t'es un couple, t'es tout seul, tu vois pas personne, c'est dur, là. Mais je veux dire, quand t'as pas le choix d'aller faire ton épicerie, parce que moi, je continue de faire mon épicerie, faire mes choses, ben un semblant de vie normale qui est là. Puis quand je travaille, je vois quand même des gens. J'ai l'avantage de, même si je suis à 2 mètres, je vois des gens pareils. Là.
C'est ça, oui. Parce que, comme tu dis, hein, si on est un couple, mais qu'on est tout seul avec notre conjoint-conjointe, ben ça demeure quand même une solitude à laquelle on n'est pas habitué.
Oui, ça peut devenir lourd.
Ça peut devenir lourd. Mais en tout cas, moi, j'encourage les gens à continuer à se chercher des occupations, hein, que ce soit par des gens, votre organisme, vous essayez de faire attention à ça, les gens peut-être qui sont un peu plus seuls, les appeler, tout ça. Des fois, faire un appel, ça demande pas beaucoup de temps, ça demande pas beaucoup d'énergie, c'est gratuit.
Ça peut faire du bien. Puis on essaie de garder ça là, vraiment là, que les gens on connaît notre monde aussi, on sait ceux qui sont plus seuls, ceux qui ont surtout, c'est surtout les gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont juste le téléphone fixe là, je me dis eux autres, puis qui n'ont pas de famille là, qui sont vraiment là, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas personne autour, ben c'est ces gens là souvent que moi je vais être porté à aller appeler, parce que tu sais qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas de cercle, là, il n'y a pas de tu sais, ils vont voir des fois un ami, mais il n'y a pas grand monde autour. Tu dis, eux autres en ont vraiment besoin. Un couple, c'est sûr que c'est pas facile, mais au moins ils sont deux, tu sais, ils peuvent se parler, ils peuvent. Mais tu sais, on va essayer d'être là quand même pour eux autres. Puis même si on est en pandémie, les travailleurs sociaux m'appellent quand même pour me référer des gens, puis on essaie quand même d'être là. Même si on ne peut pas l'aider beaucoup, mais au moins donner l'information, on peut leur dire qu'il y a telle chose qui existe. On est quand même là, puis on a hâte de recommencer à donner nos pleins services, mais on en donne quand même, là, puis on ne veut pas arrêter.
C'est ça qui compte, je pense, hein, parce que, bon, on est en train de traverser la crise, mais on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, et le jour où on va reprendre une vie normale, on ne sait pas personne. Hein? Ça fait que on n'a pas le choix de continuer puis d'essayer des choses puis d'être présent pour ceux qui en ont plus besoin.
Oui, c'est ça.
Ça a été très intéressant, ça a été très agréable de parler avec toi, d'apprendre à te connaître puis d'apprendre aussi la dynamique un peu des gens de Québec, hein, parce que et bon, Québec, c'est quand même différent de Montréal, mais il y a de la vie, hein, il y a des choses qui se font.
Ah oui, ça bouge, oui, ça bouge beaucoup, là. En temps normal, là, ça bouge énormément, puis nous, on a toujours favorisé, là, tu sais, à un moment donné, je parlais de soirée, bien, on a toujours dit aux gens, vous venez avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants, si vous voulez, parce que il faut que ça soit un peu reproduire un petit peu ce qu'on retrouve là dans des cercles de loisirs.
Oui, bien, effectivement, puis que les gens puissent vivre ces moments-là avec leurs proches comme si de rien n'était, là, comme si ils étaient voyants puis qu'ils pouvaient aller n'importe où, là, tu sais, dans n'importe quel resto, dans n'importe quel lieu public ou dans n'importe quel endroit où ce qui se passe des événements.
Oui, ben, tu sais, quand je parlais tantôt de voyage, dernier voyage qu'on a organisé, on a emmené les gens au Nouveau-Brunswick, mais moi, je leur disais, je veux que les gens se sentent comme qui était voyant. Fait qu'il y avait des bénévoles. S'il y en avait besoin, il y avait un bénévole pour une personne. S'il était capable de suivre, il suivait le groupe. Mais les gens ont visité, les gens ont été au restaurant, les gens étaient autonomes. Puis c'est important de se sentir autonome, de ne pas se sentir coincé à dire, il faut que j'attende que quelqu'un vienne me chercher. Que ce soit pour n'importe quoi, aller à la salle de bain, aller sortir dehors ou quoi que ce soit. Il fallait que les gens soient le plus autonomes possible. Fait qu'on s'est organisé pour que les gens se sentent comme ça. Puis je pense que c'est ça que les gens apprécient beaucoup de l'organisme. C'est qu'ils se sentent comme dans une famille, ils se sentent respectés. Puis ils sentent qu'ils ont toute la liberté qu'ils ont besoin.
Oui, c'est très important, ça. C'est ça qui rend les sorties, les activités agréables, c'est ça, je pense.
Oui, oui.
En tout cas, un gros merci, Daniel. Je le dis souvent à chaque émission, Connaissez-vous se poursuit en faisant les entrevues à distance, parce que je considère que d'offrir le contenu aux gens... pour eux, c'est la même chose que nous, on enregistre à distance ou en présentiel. Hein? On entend souvent ça, le mot présentiel. Mais ouais. C'est sûr et certain que moi aussi, je prioriserais de toujours rencontrer mon invité en personne. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais sûrement qu'un jour, on aura l'occasion de se croiser quelque part. Et ce sera un plaisir.
Ah, je souhaite bien. Ça a été très agréable. Je vous remercie beaucoup.
Un gros merci.
Parfait. Merci, au revoir.
Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!